venimos al gobierno de los Estados Unidos.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
قررت الدولة الإسلامية.
L'État islamique.
La France est attendue pour éviter une catastrophe.
Il n'y a pas que la dictature, le chaos, la violence. Il y a la liberté, la démocratie, le vivre ensemble, la paix.
Bonjour et bienvenue sur France Culture. Nous sommes ensemble en direct tous les dimanches du mois d'août de 12h40 à 14h pour décrypter les grands thèmes de l'actualité internationale. Experts, journalistes, diplomates, ils tenteront sans langue de bois d'éclairer de leurs analyses et de leurs débats la complexité du monde. Aujourd'hui, nous débattrons de la politique syrienne de Barack Obama, critiquée à l'étranger mais aussi aux États-Unis. Puis nous consacrerons la deuxième partie de l'émission au retour d'Al-Qaïda. Mais d'abord, c'est la revue d'actualité internationale de Tiphaine de Roquigny. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Isabelle.
La Turquie a engagé ses chars en Syrie mercredi. Objectif, reprendre la ville de Jarablus tenue par les djihadistes de l'État islamique.
C'est la plus grande intervention de l'armée turque en territoire syrien depuis le début de la guerre. Environ 300 soldats ont été déployés ainsi qu'une dizaine de chars venus soutenir l'armée syrienne libre face à Daesh. Grâce également à l'appui aérien des États-Unis, la bataille a été remportée en quelques heures. Et on peut d'abord voir dans cette intervention turque une réponse à l'attentat sanglant de Gaziantep samedi dernier, attribué à l'État islamique. Mais le président turc ne s'en cache pas. Cette opération vise surtout à empêcher l'expansion des milices kurdes YPG en Syrie, le long de la frontière avec la Turquie. Ankara redoute par-dessus tout la formation d'un corridor qui servirait de base arrière aux terroristes du PKK. Dans un discours à Ankara, le président turc a déclaré la guerre aux deux organisations, le PYD, la vitrine politique des Kurdes syriens, et l'État islamique.
Les attaques depuis la Syrie contre notre pays, à Gaziantep, à Kilis, nous ont amenés au point où nous disons « Maintenant, c'est la fin. Il faut en finir avec cette menace. »
L'opération baptisée « Bouclier de l'Euphrate » est aussi une façon de faire oublier la complaisance coupable d'Ankara à l'égard de l'État islamique. La Turquie a longtemps soutenu dans l'ombre les djihadistes en espérant provoquer le renversement rapide de Bachar el-Assad. Mais depuis le rapprochement avec Moscou fin juillet, les priorités du président turc ont changé. Erdogan a assoupli sa position à l'égard du leader syrien et annonce redoubler d'efforts contre l'État islamique. Sauf que les combattants qui sont en première ligne face à Daesh, ce sont justement les YPG, les unités de protection du peuple alliés aux États-Unis. Selon le Hurriyet Daily News, Barack Obama aurait appelé lui-même Erdogan pour le convaincre de laisser les Kurdes mener l'éprouvante bataille de Manbij début août. L'homme fort de la Turquie a accepté à une condition, que les milices se retirent après avoir libéré la ville. Or Ankara a appris que non seulement les Kurdes ne se retiraient pas, mais qu'ils avançaient vers Jarablus. C'est là que l'intervention turque a été déclenchée. Les milices continuent aujourd'hui de progresser. Selon l'agence de presse gouvernementale Anadolu, citée par Le Temps, les YPG ont repris 7 villages depuis l'opération de mercredi. Réaction du vice-président américain Joe Biden en visite à Ankara, les milices kurdes doivent impérativement se replier.
Nous avons été extrêmement clairs avec les combattants qui faisaient partie des forces démocratiques syriennes, les YPG, qu'ils doivent retourner de l'autre côté de l'Euphrate. Ils ne peuvent pas avoir et ils n'auront en aucune circonstance le soutien des États-Unis s'ils ne respectent pas cet engagement.
À l'heure actuelle, une partie seulement des combattants kurdes a rejoint la rive orientale de l'Euphrate. Hier, des affrontements ont éclaté entre des chars turcs et des forces locales soutenues par les YPG. Un premier soldat est mort hier et l'administration autonome kurde a dénoncé également une incursion de blindés turcs dans la région de Kobané, plus à l'est. Ankara semble fermement décidée à rester en Syrie le temps qu'il faudra. L'armée turque dispose désormais de 50 chars dans le pays, selon le quotidien Hurriyet. Comme l'écrit l'éditorialiste turc Mustafa Akyol, le problème n'est pas que le PYD soit kurde, mais qu'il s'agit d'une version syrienne du PKK qui attaque les soldats turcs et commet des attentats presque chaque jour. Autrement dit, toujours selon Mustafa Akyol, ce n'est pas la formation d'un Kurdistan syrien que craint la Turquie, mais la création d'un Kurdistan dominé par le PKK. Et personne ne peut dire dire que c'est une inquiétude sans fondement, conclut l'éditorialiste. Avant-hier, encore 11 policiers ont été tués et 78 blessés dans une attaque à la bombe menée par des séparatistes kurdes à Cizre, dans le sud-est de la Turquie.
Direction le Gabon, où 630 000 électeurs étaient appelés aux urnes hier pour trouver, peut-être, un successeur au président Ali Bongo. Ce serait la fin d'une dynastie de près de 50 ans.
Les résultats ne seront pas publiés avant un jour ou deux, mais les deux favoris de l'élection, Ali Bongo et l'opposant Jean Ping, ont d'ores et déjà annoncé leur victoire. Pendant la campagne, le président sortant a longtemps fait la course en tête, mais le 16 août dernier, coup de théâtre, deux poids lourds de l'opposition se rallient à Jean Ping, qui est donc un ancien ministre d'Omar Bongo, le père d'Ali. C'est donc un duel fratricide qui se joue au sommet de l'État, et cela d'autant plus que Jean Ping a été l'époux de la sœur de l'actuel président. Les électeurs ont dû choisir hier entre deux caciques du régime qui prétendent chacun incarner la rupture. Malgré les inquiétudes, les élections se sont déroulées dans le calme et la participation a été massive. Pour l'opposition, c'est le signe que l'alternance est enfin arrivée, même si des soupçons de fraude demeurent. Le camp présidentiel, de son côté, déclare redouter des violences. Écoutez le porte-parole d'Ali Bongo, Alain Claude Bilibi Ainze.
Nous sommes confiants que le chef de l'État va l'emporter. Je crois qu'il porte un beau projet pour le Gabon et il l'emportera. Mais il faut que chaque acteur accepte les règles du jeu et que chacun attende la proclamation officielle des résultats. Nous craignons des violences, d'autant plus que certains leaders de l'opposition ont commencé à envoyer des messages, à s'autoproclamer quasiment sur les réseaux sociaux. Et ça, évidemment, pour ceux qui vont faire donner foi, crédit à ce genre de proclamation, ça peut effectivement entraîner des violences. Mais encore une fois, il faut que les gens attendent le processus normal prévu par nos lois.
En 2009, l'élection contestée d'Ali Bongo après la mort de son père avait entraîné des violences. Le consulat de France avait été incendié dans la capitale économique Port-Gentil et plusieurs personnes étaient mortes dans les affrontements. Un son pour finir, Isabelle. Après les coups de pioche, les regrets d'Ahmad al-Mahdi devant la Cour pénale internationale, le djihadiste est accusé d'avoir détruit 9 mausolées en juillet 2012 à Tombouctou.
Wala in kanat hinaha qad tasallatat alayya zumratun.
J'ai été influencé par un groupe de personnes néfastes appartenant à Al-Qaïda et à Ansar ed-Din. Je ne pense pas qu'à travers ces actions, nous aurions pu transformer l'héritage de la ville de Tombouctou. J'aimerais donner un conseil aux musulmans du monde entier. Ne perpétrez pas le même genre d'acte que moi, car cela n'apportera pas le moindre bien à l'humanité.
C'est la première fois qu'un procès se tient à la CPI pour destruction de patrimoine mondial de l'humanité. Ahmad al-Mahdi a donc demandé pardon au peuple malien et se décrit comme un fils ayant perdu son chemin. La cour a requis une peine de 9 à 11 ans de prison. Verdict attendu le 27 septembre.
Merci Tiffaine, nous vous retrouvons tout à l'heure pour le portrait de la semaine. La crise au Levant restera sans doute son plus gros échec. Alors que son mandat s'achève, la politique syrienne de Barack Obama est critiquée de toutes parts. Aux États-Unis, des diplomates, d'anciens patrons du Pentagone et Hillary Clinton accumulent les griefs. Ils reprochent au président américain son inaction au début de la guerre, son manque de stratégie pour la région, ses hésitations à s'engager davantage pour défendre les valeurs de l'Amérique, mais aussi ses alliés. Ils remettent en cause ses choix, qui leur paraissent erronés, comme la priorité accordée à l'Irak sur la Syrie, Irak First. Il critique sa retenue militaire contre les djihadistes de Daesh, mais aussi contre le régime de Bachar el-Assad. C'était en août 2013. Damas venait de franchir la ligne rouge établie par Barack Obama sur l'utilisation des armes chimiques et la France, avec ses alliés américains et britanniques, s'apprêtait à le punir. Mais après le cinglant désaveu apporté par le Parlement britannique à David Cameron, le président américain a lui aussi fait volte-face au dernier moment, rompant sa promesse et lâchant brutalement son allié français qui a dû rappeler ses bombardiers. François Hollande ne lui a jamais pardonné, il le répète dans chacun de ses discours depuis 3 ans. Le président français se dit persuadé que le destin de la Syrie aurait pu être différent. Comme on ne refait pas l'histoire, on ne pourra jamais savoir à quoi aurait ressemblé la Syrie après des frappes contre le régime. On sait aussi, la réhabilitation de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher nous le rappelle, qu'il faut parfois de longues années avant de pouvoir dresser un bilan objectif de l'action d'un dirigeant. Avec nous pour en débattre, Jean-Pierre Filliou, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, prof à Sciences Po, ancien diplomate en poste notamment en Syrie, et votre dernier livre, Les Arabes, leur destin, destin est le nôtre » est publié aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Camille Grand, vous êtes le directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique pour encore quelques jours seulement, car vous venez d'être nommé secrétaire général adjoint de l'OTAN. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour permettre à nos auditeurs de profiter de vos derniers jours d'homme libre. Je parle de la parole, bien entendu. Bonjour Camille Grand.
Bonjour. Bonjour.
Laure Mandeville, vous venez de passer 7 ans à Washington en tant que correspondante du Figaro. Et vous nous revenez toute fraîche d'outre-Atlantique avec un opus dont l'encre est à peine sèche. Un opus consacré à Donald Trump, apparaître bientôt aux éditions de l'Équateur, qui est vraiment Donald Trump. Bonjour Laure Mandeville.
Bonjour.
Alors Jean-Pierre Filliu, vous venez de publier la semaine dernière, je crois, sur votre blog, un article consacré aux mensonges de Barack Obama sur le dossier syrien. Vous établissez un parallèle et comparez ces méthodes à celles de George Bush en 2003, en Irak, à la veille de l'intervention militaire en Irak. Alors, vous êtes un homme réputé pour son franc-parler, on vous connaît pour la clarté de vos analyses, mais est-ce que cette fois vous n'allez pas un peu trop fort, Jean-Pierre Filliu ?
Je crois qu'en fait, les mensonges d'Obama au Moyen-Orient sont bien pires que ceux de George W. Bush. Parce que j'en viens à m'inquiéter de savoir si Obama sait maintenant aujourd'hui quand il ment et quand il dit la vérité. On a atteint un tel degré de confusion sur les affaires moyen-orientales aux États-Unis que vraiment le successeur, il ou elle, aura bien du mal à démêler le vrai du faux. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Barack Obama est quelqu'un de très intelligent, mais aussi de très cérébral. Il ne sent pas l'histoire. Les tragédies le fatiguent. Ce sont des symptômes de peuples qui ne devraient pas être au premier rang du XXIe siècle. Et donc, il a voulu traiter la guerre de Syrie comme une combinaison au Congrès, avec une approche tout à fait abstraite d'une réalité extrêmement lourde. Et on l'a rappelé dans les nouvelles extrêmement sanglantes. Et c'est ce décalage, cette abstraction, cette intellectualisation qui lui a fait choisir une approche totalement déconnectée de la réalité. Et comme c'est quelqu'un de très orgueilleux, voire d'arrogant, et bien comme cette réalité passait son temps à lui apporter un démenti cinglant, et bien il a commencé à la nier. Et c'est ce déni de réalité qui nous a amené à la catastrophe actuelle.
Et ces mensonges, concrètement, les mensonges dont vous parlez, pouvez-vous les résumer ?
D'abord, il y a des mensonges sur les chiffres. Il faut savoir que on nous parle de Daesh, donc le soi-disant État islamique, comme étant, d'après les sources de renseignement américains, composé de 20, 30, voire 40 000 membres. Et les Américains, les mêmes, affirment qu'ils en ont éliminé par leur bombardement 45 000. Donc il y a déjà un problème qui est tellement aveuglant que on se demande comment ces chiffres peuvent encore être mis en circulation. Mais il y a bien pire que ça. Il y a cette idée que Daesh, au fond, peut être géré dans le temps. Et c'est là où je crois que l'héritage d'Obama est tout à fait calamiteux. On voit bien que les Turcs, la semaine dernière, se sont emparés d'une position stratégique de Daesh en quelques heures. L'idée qu'avec Daesh, on a le temps, et que, en fait, c'est une opération de longue durée, sur un an, deux ans, voire, d'après certains planificateurs américains, sur 10 ans, est totalement méconnaître, donc mentir, activement ou passivement, la réalité de la menace djihadiste, dont on voit bien qu'elle inflige déjà, dans notre pays et en Europe en général, des souffrances terribles, et qu'elle génère des processus qui vont peser longtemps sur le devenir de nos sociétés. Donc, en niant cette réalité djihadiste, en la traitant de manière abstraite, en refusant d'écouter ses alliés, et entre autres la France, Obama, je le répète, nous a amenés dans une situation qui aujourd'hui ne peut être qualifiée que de catastrophique.
Camille Grand, calamiteux le bilan de Barack Obama en Syrie. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus critiquable dans la politique syrienne du président américain ? Est-ce que c'est son inaction ? Ou est-ce que c'est le fait qu'il ait trahi sa promesse en omettant de respecter la ligne rouge qu'il avait lui-même fixée sur les armes chimiques ?
Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses que Jean-Pierre Philippe vient de dire sur le fait que le président américain a, tout au long de cette crise syrienne, réagi souvent avec retard, souvent à côté, et a, au fond, ne s'est engagé au Moyen-Orient qu'avec des semelles de plomb, voire à reculons, en considérant qu'il avait fait une sorte de promesse de campagne qui était le retrait d'Irak et que donc il devait respecter à toute force cette promesse de campagne en omettant de reconnaître que la situation était profondément différente que celle de ce moment de sa prise de fonction, que les risques étaient majeurs, que ce qui se passait en Syrie était dramatique. Et du coup, il a passé une grande partie de son mandat à hésiter sur sa politique syrienne, à refuser l'action proposée, y compris par les membres éminents de sa propre administration. Ça a été assez bien décrit dans les mémoires des différentes personnes qui ont servi le président Obama. Et c'est très frappant de voir à quel point les gens qui quittent l'administration, que ce soit des civils ou des militaires, quelques jours après, quand ils n'écrivent pas un livre cinglant, se répandent pour dire à quel point la politique syrienne du président était à côté de la plaque. Donc on a vraiment, de ce point de vue-là, un président... Alors, tout ceci étant posé, c'est vrai que pour Obama, la crise syrienne est une crise parmi d'autres et qu'il le met sur le plan qu'il gère. Et ça, il faut toujours avoir ça en tête quand on critique les États-Unis. Les États-Unis doivent en même temps penser à ce qui se passe en Corée du Nord, on en parlait à l'instant, en Russie. Sont comme un chef qui a 12 casseroles sur le feu, et donc et Obama n'a clairement pas fait du Moyen-Orient sa grande priorité de politique étrangère. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut aussi reconnaître le fait que cette période est marquée par une perte d'influence et de capacité des Américains à influencer les événements au Moyen-Orient, que Obama a probablement, je dirais là pour le coup à juste titre, analytiquement reconnu. C'est-à-dire, il n'a pas, par rapport à Bush par exemple, la prétention de transformer le Moyen-Orient de quelque manière que ce soit. Mais pour revenir directement à votre question sur le point le plus grave, effectivement la question de la ligne rouge non respectée de 2013, qui est restée en travers de la gorge des Français, pose deux problèmes. Un problème local, qui est que ça a été le signal pour Bachar al-Assad et pour les pays de la région que finalement ce n'était pas les États-Unis qui, à la fin des fins, dicterait l'agenda pour l'avenir de la région, et que les Américains étaient trop réticents à s'engager. Et d'autre part, un problème global, vu de Moscou, de Pékin ou d'ailleurs, qui est que les États-Unis étaient devenus une puissance hésitante et, à ce titre, n'étaient pas prêts à faire respecter les lignes rouges posées en matière de politique étrangère, au-delà évidemment du scandale qu'était la non-réponse à cette violation gravissime de toute une série de principes, de règles et de droits du droit international.
Et vous, Laure Mondeville, vous qui suivez au jour le jour la politique étrangère de Barack Obama, est-ce que vous êtes aussi sévère sur son volet syrien ?
Je crois qu'on peut difficilement argumenter sur le fait que ce qui se passe en Syrie est un désastre, en fait. On est face à une crise absolument majeure, centrale, qui n'est évidemment plus du tout seulement une crise locale, mais une crise régionale et une crise mondiale, qui a des effets absolument catastrophiques sur, évidemment, tout l'équilibre, tout l'ordre, je dirais, international, sur l'Europe. Et sur les États-Unis, on l'a vu avec toute la kyrielle d'attentats terroristes qui se succèdent à travers l'Occident et à travers le monde. Donc, bien sûr qu'il y a un énorme problème avec la politique qui a été menée. En même temps, il faut reconnaître qu'on est face à une situation d'une énorme complexité. Et il faut revenir quand même en arrière, même si, bien sûr, Obama a fait d'énormes erreurs, sur la question du rapport des États-Unis au Moyen-Orient. Il faut quand même se souvenir que les Européens ont passé leur temps pendant l'ère Bush à critiquer l'hyperpuissance américaine, le fait que les Américains s'engageaient trop, et évidemment le désastre irakien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est
quand
que...
Quand les Américains interviennent, on les critique, et quand ils n'interviennent pas, on les critique d'eux-mêmes.
Exactement. Donc, ça, c'est la situation. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre la politique étrangère d'Obama si on ne comprend pas le fait que, pour lui, l'Irak, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir avec l'idée qu'il faut se retirer du bourbier irakien et de l'Afghanistan également. On va avoir une première phase avec Obama dans laquelle, effectivement, pour des raisons aussi de politique intérieure, et ça c'est tout à fait, pour le coup, critiquable, avec la jeune équipe de politique, je dirais presque de spin doctors, qui est à la Maison Blanche, il va mettre en œuvre l'idée d'un retrait américain d'Irak, parce que c'est une promesse électorale, et donc il va s'empresser de retirer les troupes qui se trouvent en Irak, alors que, et c'est une des critiques que lui font ses adversaires, républicains notamment, on aurait pu très bien imaginer qu'une fois tant de sang versé, les Américains décideraient en fait de négocier un maintien d'un contingent suffisant pour avoir un poids militaire dissuasif qui empêche l'émergence d'une réalité comme l'État islamique qui quand même émerge à partir du moment où les Américains se retirent. Donc ça c'est vraiment un problème. Mais en même temps, Obama, au moment où il fait ça, accepte sous la pression de ses militaires de rester en Afghanistan. Et même de mettre en place un renforcement du contingent en Afghanistan, qui ne va finalement pas réussir grand-chose, il faut bien le reconnaître, puisqu'on est dans une situation très complexe aujourd'hui en Afghanistan. Il a décidé depuis d'y rester alors qu'il voulait se retirer complètement. Mais c'est vrai que Obama en veut à ses militaires de l'avoir poussé à renforcer ce contingent, à verser encore du sang. Il est obsédé par cette idée. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas le comprendre.
C'est l'art du compromis, Barack Obama. Hein. C'est comme François Hollande en politique intérieure.
Oui, en fait, il y a une formule américaine que Obama lui-même, dans un interview que je ne peux que conseiller de lire à tous les gens qui s'intéressent à la politique étrangère d'Obama, il faut lire l'excellent papier qui est paru dans The Atlantic qui s'appelle The Obama Doctrine et qui, en fait, explique dans une très très longue interview qui est en fait en même temps un papier remarquable de Jeffrey Goldberg, ce que pense véritablement Obama de la question du Moyen-Orient et de manière générale de la politique étrangère. Et il résume de manière très claire et assez abrupte ce que doit être sa politique, c'est « don't do stupid shit ». Ne faisons pas de grosses conneries, en gros. Et il explique qu'avec ses conseillers, à chaque fois qu'ils avaient à se préoccuper d'une crise de politique étrangère, tout le monde disait « qui est prêt à faire stupid shit ?» Qui est prêt à... Est-ce qu'on doit aller faire une connerie ? Donc, l'idée, c'est la prudence quand on n'a pas de solution véritable. Et là, je voudrais revenir sur le dossier qui nous concerne. C'est-à-dire que, effectivement, Obama fait une série d'erreurs absolument majeures dans la sous-estimation de la crise syrienne. Il laisse filer dès 2011. Il y a évidemment l'erreur que vous avez mentionnée, je ne vais pas y revenir, d'août 2013, où il ne fait pas respecter la ligne rouge qu'il a lui-même tracée. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a une certaine validité aux arguments d'Obama, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on est dans une crise tellement complexe que... il y a un certain nombre d'éléments que met en avant Obama pour ne pas agir, sur lesquels nous n'avons pas de vraies réponses. Premièrement, si on regardons un peu ce qu'ont proposé les 51 diplomates qui ont récemment écrit un mémo à l'intention du président en lui disant « il faut changer de politique ». Donc tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut changer de politique, mais personne ne sait exactement comment. Eux disent « il faut... » mener des frappes aériennes pour rétablir une sorte de rapport de force avec le régime syrien et le pousser à la négociation et pousser les Russes à la négociation. Bref, il faut un muscle américain pour compenser le muscle russe. Ça, c'est un élément. Mmh. D'accord ? Et je vais juste finir cette idée. Et donc, la question d'Obama, c'est si on frappe, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a la question de l'escalade. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis sont prêts à une escalade avec les Russes ?
Camille Grand, qu'aurait-on pu faire ? Enfin, qu'aurait pu faire Obama en Syrie ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait passer l'Irak avant la Syrie ? Est-ce que c'est le fait de ne pas s'être attaqué concrètement à tout ce couloir qui a permis la circulation des djihadistes entre la Turquie et Raqqa, la capitale de l'État islamique? Est-ce que c'est justement d'avoir fait preuve d'une naïveté, voire d'une grande naïveté, face aux Russes en Syrie?
Il y a finalement deux types d'erreurs. Il y a des erreurs, on va dire, stratégiques, qui sont effectivement d'avoir considéré la Syrie comme un théâtre secondaire, qui pouvait être contenu, une guerre civile malheureuse, mais qui n'appelait pas autre chose qu'une action diplomatique pendant très longtemps. Donc ça c'est l'erreur stratégique qui est le fil rouge finalement de cette politique jusqu'à une date très récente en réalité. Et même dans la lutte contre Daesh, à partir du moment où les États-Unis reconnaissent Daesh comme une cible prioritaire et s'engagent, y compris en Syrie, ils le font avec des moyens limités, des moyens essentiellement aériens, et en résistant à un engagement au sol qui reste jusqu'à ce jour essentiellement composé de conseillers et de forces spéciales et pas un engagement sur le terrain, que ce soit en Irak ou en Syrie. Après, il y a une accumulation de fautes tactiques, c'est-à-dire d'occasions manquées. Les États-Unis, avant l'engagement de la Russie, pouvait assez facilement établir une zone d'exclusion aérienne, par exemple, qui ferait qu'aujourd'hui, toute la partie nord de la Syrie qui cumule un désastre humanitaire et une présence de Daesh serait une zone, en quelque sorte, une zone aérienne sous contrôle américain. Les Russes, la première chose qu'ils ont faite au moment où ils sont intervenus en Syrie, c'est qu'ils ont interdit en pratique une telle zone d'interdiction en déployant des moyens solaires très importants et très perfectionnés qui, évidemment...
Sol-air.
Sol-air.
Oui, c'est pas solaire. Pour l'auditeur.
Voilà. Sol-air, qui en réalité interdisent, Daesh n'ayant pas d'aviation, pas plus que les rebelles syriens, interdisent à qui d'agir? Aux Turcs, aux Américains, aux Occidentaux, qui ne sont obligés de composer avec la Russie dans cette zone. Donc on a finalement, ça c'est un exemple, il y a évidemment la possibilité des frappes après les attaques chimiques de 2013, qui était un autre moment, une occasion vraiment gâchée de bousculer un peu les choses. Et sur le terrain, tout le monde sait, raconte que les gens, dans le régime même, avaient commencé à prendre leurs dispositions pour lâcher Bachar à ce moment-là, parce qu'ils ont compris que c'était potentiellement le moment de retournement de la situation. Et c'est l'Amérique qui renonce à ça. Et encore une fois, c'était pas forcément se lancer dans une campagne de type irakienne dont il était question, mais c'était de faire basculer le conflit dans ce sens-là. Et à ce moment-là, de ce jour, Bachar a compris qu'il pouvait rester. Les Russes, les Iraniens ont compris qu'en mettant un gros effort pour soutenir Bachar, il y avait une chance de le maintenir à flot, etc., etc. Donc, on a cette série de gaffes et ensuite une gestion vraiment un peu au jour le jour des partenaires et des alliés. Où on mise beaucoup sur les Kurdes, puis on le voyait à l'instant, on les lâche un peu quand les Turcs s'agacent trop, on parie, on sous-traite aux Saoudiens, aux Qataris le soutien à la rébellion syrienne, et ensuite on dit que ben alors ils soutiennent pas les bons et que c'est pas bien. On a une opposition frontale avec Iraniens et Russes pour finalement arriver aujourd'hui à l'idée d'une sorte de co-traitance du dossier. Au moins au plan diplomatique. Donc on a une politique qui manque de fil conducteur d'une certaine manière et qui se construit un peu au jour le jour. Évidemment pour les raisons que Laurent Mandeville rappelait d'un refus de se réengager à la bouche, on va dire, au Moyen-Orient, qui est un refus sans doute raisonnable, mais qui manque d'une vision stratégique sur la gestion de cette crise. Je dirais au-delà du dossier syrien, du Moyen-Orient, où au fond, Obama voit ce sujet comme avant tout un problème. Et on sent d'ailleurs en ce moment assez clairement que l'idée est de passer le dossier à son successeur et qu'on ne peut pas attendre des derniers mois de la présidence et depuis quelques mois déjà des initiatives majeures de sa part pour changer les choses en se disant « j'ai réussi à ne pas engager une nouvelle guerre américaine majeure », mais en même temps pour un résultat qui est clairement problématique.
هذه المشروع وهذه الكأس slaughter you in the wrath. I'm a damn scene being dissecting the into haves and have not, but rapes and apples fall in your path. Open my veins with scalpels, hear ancestral chants of heart transplants can cure some of the past. Why does mind stay torn in half and minarets crying tears of absence? Like trees that so speak, years have passed and you can hear them asking for civil rights to live amongst tears of jasmines. House cats take naps, relaxing.
Más triste de este mundo, y así me siento yo, por ti, solo por ti.
And this is how I feel for you.
No.
À l'instant sur France Culture, le rappeur d'origine syrienne Omar Ofendoum.
Une semaine dans le monde, Isabelle Lasserre.
Et nous reprenons le débat sur la politique syrienne de Barack Obama avec nos invités Laure Mandeville, Camille Grand et Jean-Pierre Filieu. Jean-Pierre Filieu, lorsqu'on voit ce qu'est devenu l'opposition syrienne aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte d'agrégat de mouvements verts, radicaux, islamistes ou djihadistes, on peut se demander si finalement Barack Obama n'a pas eu raison de ne pas soutenir plus fort et plus fort ces rebelles syriens.
Alors d'abord, on vient d'entendre Omar Ofendoum, un Syrien américain, qui rappe sur un poème de Nizar Kabbani, un des plus grands poètes du siècle dernier. J'espère qu'un jour Barack Obama a entendu ce type de texte, qu'il a compris que la Syrie c'est ça, c'est un immense pays, une civilisation millénaire, et qu'il pourrait, plutôt que de la regarder de haut et de la traiter de manière aussi paternaliste, eh bien écouter. Écouter les Syriens, mais aussi écouter ses alliés. Car après tout, est-ce qu'il a écouté le moindre allié au cours de cette crise? Laure Mandeville nous disait « Oh, ben, c'est pas gentil, les Européens le critiquent alors qu'ils critiquaient déjà Bush », mais c'est peut-être ça aussi, avoir des alliés. C'est entendre les critiques, parce qu'après tout, les critiques des Français, lorsqu'ils mettaient en garde contre l'invasion de l'Irak en 2003, étaient justifiées. Donc peut-être que les critiques des Français sur la crise syrienne, elles sont aussi justifiées. Alors on peut pas d'un côté dire « Oh, ben... je fais ce que je peux, je suis un brave gars, je suis plutôt moins menteur que les autres », et puis manquer de ces deux qualités fondamentales qui sont celles d'un président américain, la vision et le leadership. Il n'a ni l'un ni l'autre. Ça a été, je crois, amplement rapporté. Alors l'opposition syrienne, ben oui, l'opposition syrienne, vous savez, c'est une révolution. Et dans une révolution, eh bien, les choses changent. C'est-à-dire que, par exemple, on a des interlocuteurs qui ne sont pas toujours les mêmes au début, au milieu et à la fin du processus. Mais je vais faire une analogie historique que, comme historien, on doit toujours manier avec précaution. Imaginez l'état d'exaspération militaires américains et britanniques face à l'état de la résistance française en 1943. Eh bien, face à cet éclatement, à ces divergences où il y avait des catholiques, des libéraux, des communistes, des socialistes, des gens qui sortaient pas de leur maquis, de leur montagne, eh bien, c'est par la livraison d'armes, évidemment, il y a eu l'action de Jean Moulin, mais fondamentalement la livraison d'armes qui a favorisé l'émergence d'un leadership unifié. Donc ça aurait pu être fait, ça n'a pas été fait. Le août 2013, au-delà de toutes les conséquences catastrophiques qui ont été énoncées, ça aussi a été un feu vert aux djihadistes. Parce qu'on leur a dit, vous voyez dans ce monde, et bon au fond, tout le monde est uni pour laisser gazer et massacrer les musulmans. Et ça, évidemment, ça affaiblit l'opposition. Laisser le siège d'Alep se prolonger de manière aussi inhumaine, ça, évidemment, aussi encourager les djihadistes. On en parlera dans la deuxième partie, hein, donc sous la version Al-Qaïda, le front Nosra. Donc on ne peut pas dire, c'est affreux, c'est compliqué. Et alors jouer les Kurdes, exclusivement les Kurdes, uniquement les Kurdes, pendant de longues années, n'accordaient de soutien aérien qu'aux Kurdes, dans un pays où les Kurdes ont le droit d'avoir tous les droits qu'ils revendiquent, mais où ils ne sont jamais que 10 à 15% de la population, c'est une fois de plus faire preuve d'un aveuglement qu'on ne peut qualifier que de colonial. Donc le paradoxe d'Obama, c'est qu'il veut effectivement solder le legs coloniale, de l'expédition coloniale de Bush en Irak, mais qu'en faisant ça, au lieu d'écouter les vieilles puissances coloniales, les anciennes puissances coloniales qu'on connaisse un petit peu la région, entre autres la France en Syrie, eh bien il rejoue le jeu des anciennes puissances coloniales, qui est les Kurdes contre les Arabes, les Alaouites contre les Sunnites, etc., etc. Et qu'au lieu d'avoir une vision qui aurait une vision de peuple, qui aurait au fond la vision d'Obama au Caire en 2009, ce grand discours refondateur de la relation entre l'Amérique et l'islam, dont on voit qu'il est le premier non seulement à l'avoir totalement oublié, mais à l'avoir trahi.
Laurent Mondeville, aveuglement ou plutôt, si je me fais l'avocat du diable, vision de la part de Barack Obama de ne pas avoir voulu soutenir une opposition qui n'a plus aujourd'hui de modéré que le nom.
Oui, alors moi je me retrouve dans une position un peu particulière puisque là je suis finalement Monsieur Filiou m'accuse d'être trop gentil dans mon évaluation de Barack Obama. Moi j'ai il y a certains éléments de ce que vous dites avec lesquels je suis en absolu accord, et également avec ce qu'a dit Camille Grand sur les occasions manquées, sur la sous-estimation absolue de la question syrienne. Je crois qu'il y a, de manière générale aux États-Unis, une tendance, qui est d'ailleurs pas seulement du tout le fait d'Obama, mais une tendance historique, à penser que si les Américains ne se mettent pas en confrontation avec tel ou tel pays, telle ou telle menace, qu'au fond, c'est les Américains qui définissent les règles d'un conflit. Et donc, ça a été le cas avec les Russes, où Obama a cru que si on se retirait de l'espace est-européen, si on refusait d'avoir une politique, disons, active et dynamique, face aux Russes, on allait éviter la question de l'agressivité russe. Et là, on a exactement la même situation avec l'islam radical, où on imagine que si on finalement se retire, comme vous dites, le conflit pourra être plus ou moins contenu dans cette zone compliquée que les Américains ne savent pas gérer. Alors, en même temps, on ne peut pas à la fois critiquer les Américains pour une chose et l'autre. À la fois, on les critique en disant, vous dites, ils ont mené une politique coloniale en Irak, et maintenant vous critiquez Obama pour pas vouloir mener une politique coloniale. Donc, il faut savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Américains ont quand même, moi je pense que un des éléments positifs d'Obama, c'est quand même qu'il reconnaît que les Américains ne savent pas gérer des situations de post-crise. Et la grosse question qui se pose aujourd'hui en Syrie, si on fait, bien sûr, parce qu'on n'est plus en 2013, on n'est ni en 2011 ni en 2013, on est en août 2016. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et aujourd'hui, il est, me semble-t-il, bien que je ne sois absolument pas une spécialiste de la question syrienne, il me paraît qu'il est une évidence qu'il est extrêmement difficile d'imaginer l'avenir politique de la Syrie, et c'est une des clés du problème, et c'est pour cela qu'Obama a quand même un certain nombre d'éléments pour défendre sa politique. Je ne vous dis pas qu'il ne faut rien faire, ce n'est pas du tout mon point de vue, mais je pense qu'on est face à une situation extrêmement complexe, et la meilleure preuve de cette complexité, c'est qu'au plan américain, vous n'avez pas un seul acteur qui aujourd'hui propose une politique véritablement convaincante. Regardez Hillary Clinton, qui a critiqué d'abord un petit peu directement quand elle a dit « Don't do stupid shit, it's not a policy ». Ce n'est pas une politique de pas vouloir faire de bêtises. Il y a aujourd'hui un conflit absolument à couteau tiré entre les différentes factions qui sont dans l'entourage d'Hillary Clinton. Vous avez d'un côté des gens comme Steve Simon ou Michel qui disent il ne faut surtout pas s'engager dans ce guépier si on parce que nous ne sommes pas prêts à aller au sol, et si nous n'allons pas avec une force au sol, nous ne pourrons pas gérer cette situation et nous appellerons, comme nous l'avons fait en Libye, les extrémistes au pouvoir. Et vous avez d'un autre côté des gens comme Michel Flournoy du Centre pour une nouvelle sécurité américaine qui disent nous devons absolument nous engager, nous avons complètement sous-estimé cette affaire, nous sommes face à une menace absolument vitale puisque l'avenir de nos alliés, l'Europe, est en train d'exploser sous le poids de cette crise, nous avons des attentats terroristes. Mais et ce qui est intéressant, c'est aussi la position de Trump. La position de Trump est une position également complexe, puisque vous avez d'un côté la volonté d'attaquer de front la question de l'islam radical, qu'il place absolument au cœur de sa politique étrangère. Il parle de, évidemment, la lutte contre l'État islamique, mais en même temps, il n'a toujours pas parlé d'une possible corps expéditionnaire. Et soyons clairs, si nous voulons régler aujourd'hui la question de la Syrie, il va falloir déployer des forces de maintien de la paix ou des forces au sol.
Alors peut-être pas. D'accord,
vous pouvez ne pas être d'accord. Mais la question, je trouve en tout cas que l'Europe ne peut pas faire l'économie d'une introspection également, parce que bien sûr, il y a la position française, il faut aller bombarder la Syrie, et comme ça on pourra rééquilibrer le rapport de force et négocier en position de force face à Bachar el-Assad et aux Russes, ce qui est un point de vue qu'on peut défendre. Mais la question de l'avenir, sans une opération au sol, je ne la vois pas. Donc pour moi, la question, c'est est-ce que les Européens, qui dans cette crise sont en première ligne, ce ne sont pas les Américains, et là ils ont raison, qui sont en première ligne, c'est nous. Ils ont des attentats terroristes, mais nous on a une crise majeure, avec des attentats en France qui se succèdent les uns après les autres. On est au contact, on a des milliers de réfugiés qui arrivent, donc pour nous c'est une crise existentielle. Donc les Européens, certes, Barack Obama n'a rien fait en août 2015, avant que les Russes finalement ne décident d'intervenir, voyant ce vide providentiel pour eux se profiler. Mais qu'ont fait les Européens exactement? Est-ce qu'on a eu, au moment de la crise des migrants, une initiative de l'Europe pour dire « Ok, nous avons une crise, est-ce qu'on la veut dans nos murs ou est-ce qu'on la veut en Syrie ? Est-ce qu'on lève un contingent de forces de la paix et est-ce qu'on propose aux Américains de faire quelque chose avec eux ?» Moi, je pense qu'en tout cas, les Européens doivent se préparer à l'idée que l'Amérique ne va plus être le gendarme du monde partout. Peut-être qu'elle interviendra et peut-être qu'un nouveau président fera ou ouvrira la possibilité d'une nouvelle donne. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions parce qu'aujourd'hui, il y a un courant profond aux États-Unis pour remettre en cause le rôle de gendarme de l'Amérique et l'utilisation systématique de la force. Les Américains utilisent le terme de « free riders », qui est le terme de passagers clandestins, c'est-à-dire les Européens, dans une certaine mesure, ont profité du parapluie de sécurité américain pendant des années. Même chose pour le Moyen-Orient, pour les Saoudiens et d'autres alliés. Les Américains ne veulent plus être les seuls à payer. Et quand Trump fait ses déclarations provocatrices qui nous inquiètent et qui doivent nous inquiéter, elles doivent aussi nous alerter sur la suite. Il faut qu'on se prépare.
Alors, je vais vous laisser répondre, Jean-Pierre Fillu, en vous posant une question. Est-ce que effectivement, c'est pas davantage l'Europe, son incompétence militaire, son inexistence diplomatique, qu'il faut incriminer ?
Non, mais le thème de l'émission est, je crois, sur la politique d'Obama. On pourrait faire une émission aussi critique et sévère sur la politique de l'Europe. Je vois pas en quoi ceci
exclut cela
et en quoi Obama. Jusqu'à plus ample informé, je suis assis à côté d'un futur secrétaire général de l'OTAN. Il y a une alliance atlantique.
Adjoint.
Secrétaire général adjoint de l'OTAN. Il y a une alliance atlantique. Ça veut dire que quand la sécurité de l'Europe est menacée, eh bien, ça veut dire des choses pour les Américains ou alors qu'ils le disent. Or, on voit que dans l'affaire syrienne, non seulement ils ont refusé de voir le lien entre déstabilisation terroriste et démographique de l'Europe d'une part et crise syrienne d'autre part, mais ils ont aussi refusé de voir le lien entre l'annexion de la Crimée par exemple et le fait qu'en août 2013, Poutine avait parfaitement compris que c'était un tigre de papier qu'il avait en face de lui et qui pouvait aller jusqu'au bout. Donc effectivement, on peut jouer avec un certain nombre de casseroles, mais il faut au moins avoir les yeux sur deux casseroles en même temps. Et ça n'a pas été le cas de la part d'Obama. Et une fois pour toutes, qu'on arrête de dire qu'on a le choix qu'entre tout et rien. Qu'entre le tout interventionniste de Bush et le rien du tout d'Obama. Une politique, c'est cela. Mais j'insiste sur un point capital. C'est qu'Obama n'écoute pas. Il n'écoute pas les Européens, il n'écoute pas les Arabes, il n'écoute pas les Turcs, et quand il parle avec Poutine, eh bien on sait que ce n'est pas vraiment de l'ordre du dialogue. Donc il y a un phénomène qui s'apparente à une forme d'autisme international qui est tragique et dont on voit le résultat aujourd'hui. Ça fait un an et plus que le seul souci d'Obama est de dire partout et toujours qu'il a raison, qu'il n'a jamais fait d'erreur et qu'il ne peut être attaqué sur rien. Et d'ailleurs, il revendique août 2013 comme étant la décision dont il est le plus fier de son mandat. Donc on voit qu'on est non seulement dans le refus de la moindre autocritique, mais dans un enfermement intellectuel que j'ai qualifié de déni et qui, aujourd'hui, s'est traduit par une poussée absolument phénoménale et totalement évitable de la menace djihadiste.
À l'instant sur France Culture, DJ Spooky.
Une semaine dans le monde, Isabelle Lasserre.
C'est l'heure du portrait de la semaine avec vous, Tiphaine de Roquigny. Aujourd'hui, vous tentez de cerner la figure d'Al-Zawahiri, l'ancien bras droit de Ben Laden, devenu chef d'Al-Qaïda en 2011.
We are Muslims. We are Muslims who believed in their religion.
Cette voix, c'est celle du théoricien du djihad moderne, Ayman al-Zawahiri, qui n'a alors que 30 ans. Nous sommes en 1981 en Égypte, quelques semaines après l'assassinat du président Anwar el-Sadat. Les procès des militants islamistes se succèdent, les journalistes étrangers sont venus sur place, quand soudain, depuis la cage où les prisonniers sont enfermés, un homme aux lunettes sévères prend la parole.
We are here, the real Islamic front, against Zionism, communism and imperialism. We suffer the severest inhuman treatment.
Nous sommes ici, le vrai front islamique contre le sionisme, le communisme et l'impérialisme, clame Ayman al-Zawahiri. Nous avons subi des traitements inhumains, ils nous ont battus, frappés, ils nous ont fouettés avec des câbles électriques, ils ont arrêté les femmes, les mères, les pères pour mettre la pression sur des prisonniers innocents. Ce jour-là, al-Zawahiri s'impose comme le vrai leader du mouvement islamiste égyptien. 15 ans plus tôt, cet adolescent des beaux quartiers du Caire rejoignait les frères musulmans et c'est au lycée qu'il fonde sa première cellule peu de temps après la défaite égyptienne face à Israël en 67. La guerre des six jours laisse chez lui des traces et c'est après une autre guerre, celle du Kippour, qu'il décide de rallier un groupe plus radical, le djihad islamique égyptien. Il vient alors de terminer ses études de médecine, spécialité ophtalmologie comme Bachar el-Assad. C'est un homme qui a le goût des lettres, plus plus jeune, il écrit de la poésie, mais rapidement, ce sont les écrits de l'idéologue égyptien Saïd Kateb qui l'interpellent, en particulier « Signes de piste » et « À l'ombre du Coran », dans lesquels le militant islamiste raconte les sévices atroces qu'il subit en prison. En 1981, quand Al-Zawahiri sera lui-même emprisonné et torturé dans les geôles égyptiennes, il lui semblera revivre le martyr de son père spirituel. Mais le futur chef d'Al-Qaïda gardera surtout de ses 3 années d'enfermement le souvenir d'une immense humiliation. Sous la torture, il a dénoncé son ami et mentor Issam Al-Kamari qui sera arrêté à son tour. Cette expérience traumatisante est fondatrice pour le militant radical et c'est à partir de là qu'il décide de mener le combat depuis l'étranger. L'Afghanistan d'abord, où il rencontre un jeune milliardaire saoudien très respecté, Oussama Ben Laden, puis le Soudan, l'Autriche, le Yémen et même sans doute les États-Unis. Partout, il cherche des soutiens financiers pour renverser le régime égyptien. Ben Laden, lui, prêche déjà un djihad mondial dirigé contre les États-Unis. L'année 1998 marque alors un tournant. Al-Zawahiri, devenu le médecin personnel du chef d'Al-Qaïda, se rallie à la doctrine de l'ennemi lointain. Et le 26 février, il signe avec Ben Laden un manifeste qui fonde le Front islamique mondial contre les juifs et les croisés. Les musulmans du monde entier sont appelés à tuer les Américains et leurs alliés. Menace mise à exécution 3 ans plus tard avec les attentats du 11 septembre, dont Al-Zawahiri est le véritable cerveau. La figure de Ben Laden l'a longtemps éclipsé, mais cet intellectuel discret à la barbe blanche a su faire sa place. Ses livres sont devenus des références absolues dans les cercles djihadistes, en particulier « Cavalier sous l'étendard du prophète » et « L'allégeance et la rupture ». Il occupe la place du sage au sein du mouvement islamiste, dira de lui un autre théoricien du djihad, Abu Qatada al-Filastini. Un sage qui aurait peut-être fait assassiner son principal concurrent auprès de Ben Laden, le Jordanien Abdallah Azam, en 1989. Al-Zawahiri avait en effet dénoncé Azam comme un agent de la CIA peu de temps avant la mort de celui-ci dans un attentat à la voiture piégée à Peshawar. Autre figure à laquelle l'ancien médecin de Ben Laden s'est opposé, Abu Musab al-Zarqawi, ce voyou d'origine palestinienne, devenu le leader d'Al-Qaïda en Irak puis le fondateur de l'État islamique. Celui que ses partisans appelaient le lion de Mésopotamie voulait frapper en priorité les musulmans chiites plutôt que les occidentaux. C'est l'un des points de rupture entre l'État islamique en Irak et Al-Qaïda, dont on a dit un peu trop vite que le premier avait ringardisé le second. Al-Zawahiri est en quelque sorte un survivant. L'homme a réchappé à 2 frappes de drone depuis 2006. Et fin 2001, sa femme et certains de ses enfants auraient été tués lors d'un bombardement américain en Afghanistan. Lui seul a survécu, alors même que certains spécialistes estiment mais déjà que sa mort aurait plus d'impact sur l'organisation que celle de Ben Laden.
Merci Tiphaine. Fallujah et Ramadi en Irak, Palmyre en Syrie, ou plus récemment Jarabulus, non loin de la frontière turque. Depuis plusieurs mois, les territoires tenus par Daesh se rétrécissent. Les bombardements de la coalition, ceux des Russes, l'offensive des Kurdes, la diminution des ressources pétrolières ont fini par placer enfin les djihadistes de l'État islamique sur la défensive. C'est une bonne nouvelle pour les Syriens et pour les Européens, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour Al-Qaïda. L'organisation, la nébuleuse terroriste, celle dont on pensait qu'elle ne se remettrait pas de la mort de son fondateur Ben Laden, revient en force. Après avoir été sonnée par l'intervention française au Mali, elle redresse la tête au Sahel, où on l'appelle ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Au Yémen, elle prend le nom d'ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et elle a quadruplé ses effectifs depuis 2014 en profitant du chaos de la guerre. En Afghanistan, Al-Qaïda tire parti du repli progressif des forces occidentales pour reprendre pied. En juin, Zawahiri a fait acte d'allégeance au nouveau chef des talibans, mais c'est au Levant que l'organisation semble en ce moment la plus active. En Irak, où Zawahiri exhorte les sunnites à se préparer à une longue guérilla. En Syrie, où l'ancien Front al-Nosra, la branche locale d'Al-Qaïda, mène l'offensive contre les forces du régime à Alep. Les allégeances et les passages d'un groupe à l'autre étant très mouvants, la nébuleuse pourrait profiter des déboires de Daesh au Levant et en Libye pour reconstituer ses forces. Last but not least, l'un des fils de Ben Laden, Hamza, promet dans un enregistrement audio de venger son père et de poursuivre son combat contre les États-Unis. Sur ce sujet et pour en débattre, Marc Ecker, vous nous avez rejoint. Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, spécialiste entre autres du terrorisme. Bonjour.
Bonjour.
Camille Grand, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, et Jean-Pierre Filliu, prof à Sciences Po. Vous êtes resté avec nous pour la seconde partie de cette émission et je vous en remercie. Alors, Marc Ecker, comment peut-on aujourd'hui expliquer ce retour d'Al-Qaïda auquel on semble assister ?
Al-Qaïda est une organisation d'une longévité exceptionnelle. C'est rare sont les organisations terroristes dont la durée de vie dépasse 10 ans. Là, on a une organisation qui est trentenaire. Alors, comment on peut expliquer cette longévité ? D'une part, il y a, je pense, une idéologie et une cause qui sont durables, quelle que soit l'organisation qui promeut cette cause. Et d'ailleurs, l'idéologie salafiste djihadiste ne se limite pas à Al-Qaïda. Et il y a d'ailleurs des recoupements entre Al-Qaïda et Daesh à faire. Et puis, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que Al-Qaïda est une organisation extrêmement mouvante, qui fait preuve d'une plasticité stratégique remarquable, qui a connu des hauts et des bas, qui est très opportuniste et qui, en l'occurrence, depuis maintenant quelques années, bénéficie du contexte stratégique et plus précisément de la déstructuration d'une partie du Moyen-Orient dont vous avez parlé au cours de la première partie de l'émission. Et là, il se trouve effectivement qu'on a l'air d'être plutôt dans une phase ascendante, mais une phase ascendante compliquée, puisque Al-Qaïda est à l'heure actuelle dans une lutte globale pour le leadership de la mouvance djihadiste face en particulier à Daesh.
Jean-Pierre Feliu, c'est un vrai retour ?
Je crois qu'il faut bien être au clair sur les définitions. De quoi parlons-nous quand nous parlons d'Al-Qaïda ? Est-ce que nous parlons de Zawahiri, donc de ce leader qui a hérité Al-Qaïda à la mort de Ben Laden en 2011 et qui, au fond, ne contrôle que très peu de gens depuis son sanctuaire à cheval entre l'Afghanistan et le Pakistan ? Ou est-ce qu'on parle de l'ensemble des franchises d'Al-Qaïda ? Dont la plupart d'entre elles sont de fait totalement autonomes de Zawahiri. On est quand même dans la situation extraordinaire où le chef d'une organisation globale demande à une de ses branches, en l'occurrence la branche syrienne, de se séparer de lui pour garantir son avenir dans la guerre civile syrienne. On n'a quand même jamais vu ça. Donc il faut faire attention, il y a différentes organisations qui se réclament d'Al-Qaïda, vous l'avez mentionné, hein, ACMI au Sahel, ACPA au Yémen, et la plus importante, c'est évidemment le Front Nosra, qui maintenant s'appelle le Front de la Victoire au pays de Cham. Mais à mon avis, ce n'est qu'un changement d'étiquette, d'appellation, hein, les habits neufs d'Al-Qaïda. Mais au fond, ce qui nous intéresse, très égoïstement comme occidentaux, qui met des bombes chez nous ? Qui massacre chez nous ? C'est Daesh. On voit bien que Al-Qaïda, même ACMI, s'en prenait aux intérêts français au Sahel, avec des otages.
Qui a revendiqué la tuerie de Charlie Hebdo ? Ce n'est pas Daesh.
Non. Charlie Hebdo, on le voit bien avec les frères Kouachi, c'est Daesh, et c'était là encore. Alors on a une surenchère qui fait qu'on peut avoir des confusions, mais la dynamique terroriste en Europe, c'est Daesh. Alors, je mets en garde contre l'idée le retour d'Al-Qaïda, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a entendu avec le débat en première partie sur Obama, il y a beaucoup de gens qui voudraient rationaliser l'impuissance face à Daesh, alors que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, et même assez vite, et remporter des succès assez rapides. Ils auraient même intérêt à être assez rapides contre Daesh. Et maintenant, on a une nouvelle petite musique en disant « Ah, mais si on affaiblit Daesh, on va renforcer Al-Qaïda. » Et comme par hasard, c'est l'argument principal des Russes.
Non, mais c'est ce qui se passe quand même, Jean-Pierre Feliu.
Non, c'est pas parce qu'on a fait... Il n'y a pas du tout de vase communicant
c'est
actuellement.
Quand même une histoire de vide qui est comblé ou non.
Non, pas du tout.
Je pense pas qu'il y ait de vase communicant et non, je pense même qu'à terme, les deux organisations pourraient se rapprocher. Ce serait, à mon avis, dans l'intérêt de ces deux mouvances.
Mais on ne sait pas perdre ensemble.
Ou perdre ensemble aussi. C'est, disons que là, le jeu est ouvert. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur le point, sur le point que vous avez évoqué. C'est-à-dire que la tuerie de Charlie Hebdo a été revendiquée par Al-Qaïda au Yémen. Les frères Kouachi s'en sont eux-mêmes revendiqués. Un des frères Kouachi, Saïd, en l'occurrence, s'était entraîné au Yémen. Et donc, je ne pense pas du tout qu'il faille, éluder totalement cette menace. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la dynamique est plutôt du côté de Daesh. Mais quand vous disiez qu'il faut se préoccuper de qui commet des attentats en Europe, mais il faut aussi voir qui commet des attentats sur nos intérêts à l'étranger. Regardez ce que fait ACMI, non seulement au Sahel, mais en Afrique de l'Ouest. Ils attaquent des Occidentaux, ils attaquent d'autres étrangers, ils ne se concentrent pas uniquement sur des mouvances locales. Donc je pense qu'effectivement, Al-Qaïda représente un danger, à la fois ici, à la fois dans ce qu'on peut appeler le Maghreb islamique ou le Sahel, selon les appellations, également au Yémen, l'organisation a quand même tenu la ville d'Al-Mukalla pendant un an, ce qui n'était absolument pas rien. Il a fallu une intervention militaire importante avec un soutien américain pour les en déloger. Donc je pense effectivement
que...
Je pense effectivement que la menace Al-Qaïda ne doit pas être totalement éludée. Un autre point, quand vous avez dit ces filiales sont totalement indépendantes de Zawahiri. Autant il est extrêmement compliqué de qualifier ces filiales de filiales, comme si c'était une grande entreprise ouvrant des filiales ou des franchises. Autant il est très difficile de dire c'est totalement indépendant ou totalement autonome. La vérité est qu'on ne connaît pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette organisation. Et on a été surpris quand il y a eu la mort d'Oussama Ben Laden de découvrir dans les documents retrouvés à Abbottabad des indications de liens. Alors c'était peut-être pas des liens opérationnels très forts, mais ce n'était pas non plus une indépendance totale et absolue.
Mais c'était Ben Laden. Ben Laden qui était le fondateur, qui était la figure charismatique. Zawahiri, on l'a un peu deviné par l'extrait sonore, et quelqu'un qui est d'abord très insupportable à écouter, y compris pour ses partisans, qui généralement sortent totalement éreintés des réprimandes, des harangues qu'il leur inflige, alors que Ben Laden avait une élocution plutôt fleurie et avait un vrai charisme dont Zawahiri est totalement absent. Et puis il y a quelque chose qui est fondamental, parce que dans ce monde merveilleux du djihadiste où ils sont soi-disant tous frères, en fait les nationalités perdurent et sont très vives. Zawahiri est un Égyptien et il y a énormément d'Arabes et de musulmans au sens large qui n'obéiront jamais à un Égyptien pour mille raisons. Alors qu'un Séoudien, du fait de son association à la terre des lieux saints de l'islam, c'était tout autre chose, surtout... comme vous l'avez rappelé, bon, il n'était pas milliardaire. C'est un millionnaire très fortuné. Il pouvait payer directement, alors que visiblement Zawahiri, les caisses, elles sont plutôt à sec. Hein. Donc, quand vous n'avez pas de charisme, que vous avez des problèmes de communication et que vous ne pouvez pas payer vos allégeances, ben du coup, le réseau, il est largement autonomisé. C'est tout le contraire de Daesh. Et juste pour clarifier. Pour les auditeurs, moi je proposerai l'équation suivante. On a avec Daesh une organisation de terrorisme à vocation planétaire qui met en œuvre, y compris au cours de ces derniers mois, une planification à l'échelle du monde entier. Et on a avec Al-Qaïda, au contraire, une mosaïque de filiales, de franchises, appelez-le comme vous voulez, qui sont fondamentalement dans la frappe d'objectifs internationaux à l'échelle locale et non dans la projection de cette terreur sur la planète entière. C'est quand même une sacrée différence.
Camille Grange, on va peut-être justement s'arrêter un petit peu sur ces questions de stratégie qui sont différentes. Hein. Daesh est sorti de l'ombre pour créer son califat. Al-Qaïda est resté dans la clandestinité. La première organisation mène des actions terroristes dans le monde entier. L'autre, mais est-ce que ça peut pas changer ça? Est-ce qu'on est, on n'est pas figé? Je veux dire, ces mouvements d'abord sont très perméables. Les djihadistes passent d'un courant à l'autre. On peut tout à fait imaginer qu'Al-Qaïda adapte sa stratégie et fructifie sur les récents échecs de Daesh en Syrie pour changer.
Non, mais je crois que d'abord, effectivement, la plasticité de ces organisations, leur capacité à se transformer, à changer de stratégie, fait partie de leur force. Et c'est vrai de Daesh, c'est vrai d'Al-Qaïda également. Et donc, cette capacité-là. Et enfin, chose très importante, nos propres actions ont une influence. C'est-à-dire que le moment où Al-Qaïda avait une forme d'emprise territoriale, un sanctuaire en Afghanistan, elle était plus à même de monter des opérations terroristes complexes, à commencer par le 11 septembre, à l'extérieur pour déstabiliser, pour frapper les croisés, entre guillemets, sur leur propre terrain, qu'aujourd'hui, où effectivement, Zawahiri est réduit dans aux confins afghano-pakistanais, avec une poignée de fidèles, Israël et n'a plus les moyens, ni financiers, ni logistiques, de monter des opérations complexes à l'étranger. C'est, on peut l'espérer, ce qui est en train de se passer avec, en partie avec Daesh. C'est-à-dire que le resserrement de la pression militaire sur Daesh et le fait que Daesh, qui était effectivement la première organisation à contrôler un territoire vaste et peuplé, ce qui était une spécificité et une nouveauté avec le projet d'État islamique, c'est-à-dire le contrôle d'une population de l'ordre de 10 millions de personnes qui étaient sous le contrôle durable de l'organisation, y compris des grandes villes, donc une capacité à lever des impôts, à prélever du pétrole, à trafiquer ce pétrole, et donc à financer une capacité à la fois militaire localement et une capacité terroriste d'une ampleur tout à fait différente, ne dépendant pas de sponsors extérieurs qui vous voudraient ou non financer. Et ça, c'est ce qui fait d'ailleurs de Daesh, à mon sens, encore aujourd'hui, la menace, on va dire, prioritaire, parce qu'elle est, elle a cette emprise territoriale et donc elle a cette capacité d'à la fois d'attirer les djihadistes qu'elle renvoie, et on voit que dans les événements les plus récents, il y a une tactique du renvoi très rapide d'un apprenti djihadiste qui vient de France ou d'ailleurs, qui arrive sur le théâtre syrien en disant « je veux me battre pour libérer la Syrie », on lui dit « non, en fait, vous rentrez le plus vite possible, avant même que les services aient décodé et identifié votre départ, vous pouvez encore raconter que vous étiez dans un club de vacances en Turquie, on a des gens qui vont vous raconter des trucs pour que ça marche, donc rentrez au bout de 3 semaines, une fois qu'on s'est assuré de votre allégeance et de votre solidité, parce que ce qu'on veut faire, et notre projet politique, qui est un projet en réalité post-territorial, c'est-à-dire Daesh est en train d'anticiper la perte la fin de son projet d'État islamique avec un territoire et une population, c'est d'exporter le djihad dans le reste du monde arabe, bien sûr, mais aussi largement en Europe, en s'appuyant sur ce qui ne sera pas des franchises, pour le coup, mais des gens qui feront allégeance à Daesh pour mener des opérations terroristes chez nous. Et avec cette particularité, là aussi, mais je pense que c'est un point qui devra être débattu, dans les attaques menées par Daesh, les dernières attaques, qu'elles soient en France, en Belgique, en Allemagne ou ailleurs, on a des attaques dont la finalité politique n'est pas autre que déstabiliser nos propres sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... chez Al-Qaïda, il y avait peut-être un espace de négociation qui était de dire si les croisés quittent la Terre Sainte, il y avait une sorte de volonté de dire du moment que vous ne venez pas chez nous, et nos attaques, y compris le 11 septembre, avaient pour objet d'envoyer ce message-là. Là, on est dans quelque chose qui est un peu différent, au sens où le fait de porter le terrorisme sur le territoire européen est en soi un objectif, est un objectif qui, évidemment, n'est pas un objectif, une revendication qui est comparable à celle que pouvait avoir Al-Qaïda au moment de sa splendeur et de ses attaques à l'extérieur. Mais j'insiste sur ce point de la question du contrôle territorial et de la plasticité de ces organisations, comme disait Marc Ecker, parce que en s'adaptant, elle s'adapte aussi à nos frappes et à nos campagnes qui sont relativement efficaces. Et c'est ce qui s'est passé avec ACMI, c'est ce qui s'est passé en réalité en Afghanistan, et c'est ce qui se passe en ce moment en Irak et en Syrie, d'une certaine manière.
Marc Ecker, c'est une mauvaise nouvelle, le retour, enfin, peut-être on peut mettre des guillemets, d'Al-Qaïda, une mauvaise nouvelle pour l'Europe.
Oui, je pense que quand les mouvances djihadistes, quelles qu'elles soient, progressent, c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'ancrage territorial. Je crois que Al-Qaïda cherche à être beaucoup plus pragmatique que Daesh dans sa progression territoriale, son contrôle des territoires, et une stratégie de beaucoup plus long terme. Al-Qaïda critique aussi les méthodes très dures et le takfirisme extrême de Daesh. Et ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, ils s'appuient beaucoup sur des locaux. Ils essayent de le faire, notamment en Syrie. Mais il y a quand même une tentative de contrôle de l'étranger. Alors ça peut venir soit de Zawahiri, soit de manière indirecte, de proches de Zawahiri. Par exemple, Zawahiri a envoyé à la fin de l'année 2015 un de ses proches, un Égyptien lui aussi, Saïf Al-Adel, auprès de Jabhat al-Nusra en Syrie. Et on voit comme ça d'autres grands cadres d'Al-Qaïda qui ont été envoyés en Syrie pour essayer de renforcer l'insurrection locale, mais j'allais dire avec une note un peu internationaliste à l'Al-Qaïda. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé aux Occidentaux, puisqu'il y a eu plusieurs frappes ciblées américaines sur des cadres d'Al-Qaïda. Et avant cela, l'année d'avant, il y avait eu tout un épisode de frappe contre un groupe qu'on avait appelé le groupe Khorasan et qui était considéré comme une unité d'action extérieure d'Al-Qaïda qui était basée en Syrie. Alors on a beaucoup glosé sur la réalité de ce groupe-là, est-ce que vraiment il avait des objectifs extérieurs ou pas. Le fait est que vers la fin 2014, début 2015, les branches locales liées à Al-Qaïda se sont plus recentrées sur des objectifs propres à l'insurrection syrienne, mais je pense que ça peut être un mouvement temporaire et qu'effectivement, à terme, des actions internationales liées à la mouvance Al-Qaïda sont tout à fait envisageables.
Camille Grand, qu'est-ce que vous pensez de... C'est ce qui est aussi un petit peu délicat aujourd'hui, c'est de voir que, en fait, de facto, les Occidentaux, c'est-à-dire en tout cas les Européens et les Américains, sont de facto, se retrouvent du même côté que, justement, l'ancienne Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui courba à Alep le régime.
Moi, je ne crois pas qu'on soit du même côté. Je pense que c'est malheureusement...
Quand on soutient les insurgés.
Non, mais on soutient les insurgés, mais on ne soutient pas Al-Nusra.
Non, mais on soutient des groupes qui combattent avec Al-Nusra. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant, ça?
Non, mais qu'il y ait une forme de porosité entre les différentes factions de l'opposition armée syrienne, c'est une réalité. En même temps, dans notre posture générale, je crois qu'il ne faut pas tomber dans des simplifications. C'est-à-dire que pas plus... que localement, les amis de mes amis ne sont mes amis et les ennemis de mes ennemis ne sont forcément mes amis, on doit nous-mêmes rentrer dans ces conflits en manquant de nuances et donc en n'étant pas capable de distinguer ce qui, dans l'opposition syrienne, mérite notre soutien, ceux qui ne doivent pas l'avoir, ceux avec qui il peut y avoir des alliances locales, et de faire passer les bons messages à ceux avec lesquels on arrive encore à travailler en Syrie, en leur disant, voilà, si on vous passe des armes, on ne veut pas qu'elles se retrouvent entre les mains d'Al-Nusra. Et si c'est le cas, ce serait un motif de rupture entre nous. La présence de forces spéciales, de conseillers aux côtés des combattants en Syrie ou en Irak ne se fait pas auprès de ces groupes-là, évidemment. Marc Ecker l'a rappelé à l'instant, ces groupes ont eux-mêmes fait l'objet de frappes de drones ou d'autres qui ne se sont pas exclusivement concentrés sur Daesh, même si l'essentiel des frappes occidentales ont été sur Daesh. Donc, je crois que c'est pas de dire, et c'est tomber, je pense, dans un piège qui nous est tendu d'ailleurs par Bachar al-Assad, que de dire en fait c'est avec moi ou contre moi, et tout ce qui est contre moi est égal aux djihadistes les plus radicaux, et donc vous n'avez pas d'autre choix que d'être dans cette posture-là. On voit bien, quand on regarde le conflit syrien depuis le début, qu'on doit pouvoir être à la fois contre Bachar, contre Daesh, contre Al-Nusra, comme étant des options mauvaises d'abord pour le peuple syrien, ensuite d'essayer de construire des solutions politiques. Après, ça ne doit pas empêcher un regard objectif sur l'état des forces en présence et de constater que malheureusement, les éléments les plus modérés de l'opposition syrienne ne sont pas ceux qui sont les plus en pointe, les plus équipés militairement pour l'emporter aujourd'hui. Ce qui ramène à un retour aux questions dont on débattait précédemment sur nos erreurs collectives dans la gestion du conflit syrien.
Jean-Pierre Feliu, mais en 30 secondes.
En 30 secondes, il y a des résolutions dont la France est largement à l'initiative au Conseil de sécurité, qui sont très claires, qui sont à la fois contre Daesh et contre Nusra. Mais si justement aujourd'hui Nusra apparaît comme un recours, par exemple la population d'Alep qui était menacée d'un siège de liquidation, c'est parce qu'on n'est pas justement venu aux côtés de ces insurgés, de cette troisième voie. Donc il n'y a pas d'alternative. Il y a une troisième voie en Syrie, elle est fondamentalement arabe et sunnite. Elle n'est pas kurde, elle n'est pas d'autres confessions. Et cette troisième voie doit être encouragée pour faire barrage aussi bien à Daesh qu'à Nusra.
Et c'est la fin de ce second débat. Il est l'heure de retrouver la chronique d'Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour. Pour conclure aujourd'hui ma revue estivale sur France Culture, des belles idées qui ont tourné court, qui se sont avérées trompeuses, voire ont dégénéré ou ont déçu, ces bonnes intentions dont l'enfer est pavé. j'évoquerai la croyance dans une communauté internationale. On m'objectera que d'évidence elle existe. La preuve, on en parle tout le temps. Pour dire, mais que fait donc la communauté internationale? Mais c'est pas parce qu'on y croit qu'elle existe, et qu'elle existe vraiment. En fait, elle n'existe pas encore. Il y a bien un monde multilatéral, l'ONU et une flopée d'organisations avec leurs fonctionnaires internationaux, quelques métiers dans le commerce, les finances, les médias, les arts, les sciences, qui vivent dans un petit monde globalisé, mais cela concerne une infime part de la population mondiale qui vit hors sol dans une mince pellicule. Il n'y a pas encore de communauté des peuples. Ils sont restés très différents. Chacun avec ses visions, son passé, ses peurs, ses espérances. C'est frappant, même entre Européens. Alors pourquoi le succès de cette formule automatique? Parce qu'elle rassure? Parce que nous avons besoin d'illusions? En fait, c'est une histoire d'occidentaux, fondamentalement. D'abord, après les premières étapes de l'européanisation du monde, au XVIe et XVIIe siècle, où il s'agissait d'abord d'évangélisation. N'oublions pas que catholicos veut dire universel. Après la sécularisation au XVIIIe siècle des valeurs chrétiennes, selon la juste formule de Luc Ferry, les occidentaux ont pensé et prétendu parler et agir au nom de l'univers tout entier. Et cette idée a survécu tout au long du XXe siècle, à travers les idées du président Wilson jusqu'à nos ONG, traversant les horreurs des deux guerres mondiales et étant même légitimées par elles. On espérait que les nations formaient une société, puis qu'elles seraient unies, les Nations Unies. Quand je dis « on », je parle des occidentaux. Et ce n'est que maintenant, au début du XXIe siècle, que face aux émergents, confrontés à leur perte de monopole de la puissance, de l'influence et de la détermination de la hiérarchie des valeurs, les occidentaux sont obligés, dans la douleur, de devenir plus réalistes et de réaliser qu'ils ne peuvent plus jouer les ventriloques avec la communauté internationale. Mais il y a une autre raison, différente, au succès récurrent de cette formule. S'il n'y a pas de communauté internationale, à quel saint se vouer? À quelle puissance supérieure faire appel quand on est au fond du désespoir? Là, il ne s'agit plus de prétentions occidentales, mais au contraire, de peuples sans État, kurdes, palestiniens, tibétains, etc., qui cherchent un recours, une providence moderne. Ou alors il s'agit de nouveaux damnés de la terre qui errent sur les routes de l'exil ou de l'émigration, à la recherche d'un asile et d'une vie meilleure. Ou encore des pays les moins avancés, les fameux PMA, dépourvus de toute ressource, qui voudraient se développer et qui n'y parviennent pas, et qui donc se tournent vers la communauté internationale. Qui n'aimerait, dans la lignée de Kant, que les nations forment une communauté internationale, précisément, mais qui ne voit que c'est un objectif, pas encore une réalité. Il faut y travailler, mais on est en conscient que nos valeurs universelles, aussi magnifiques soient-elles, n'y suffiront pas. D'ailleurs, elles sont en partie contestées dans les mondes russes, chinois, musulmans, etc. Et que la mondialisation récente, qui a été enrichissante mais aussi très perturbante, ne s'est pas révélée heureuse pour tous. Est-ce que, sans renier ces valeurs universelles, sans renoncer à une mondialisation mieux régulée, est-ce que la prise de conscience du lien écologique entre tous les êtres vivants sur la planète ne peut pas fournir le lien manquant? À terme, c'est la piste que j'ai évoquée dans ma précédente chronique. Immenses intérêts immédiats ou urgences à court terme qui prennent peuple et dirigeants à la gorge vont retarder cette prise de conscience. Dans une lettre que Michel Rocard m'a adressée 3 semaines avant sa mort à propos de mon dernier livre, il m'a écrit à ce sujet « C'est bien le cap à suivre, mais il y en a pour un siècle ». Conclusion, la communauté internationale reste à construire. Ne perdons pas de temps. Mais comme pour tous les autres thèmes que j'ai abordés cet été, nous n'y parviendrons qu'en étant réalistes. Il n'y a aucune fatalité à ce que les réalistes soient fatalistes et que les ambitieux soient chimériques. Il faut combiner le meilleur des deux.
Merci Hubert Védrine. Une semaine dans le monde se termine. C'était la dernière émission de l'été. Un grand merci à nos invités, Marc Ecker, Camille Grand, Laure Mandeville et Jean-Pierre Filliu. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été réalisée par Philippe Baudouin avec la collaboration de Tiffaine de Roquigny et de notre stagiaire Rémi Baille. À la technique aujourd'hui, Jean-Guy Lamège. Vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur le site de France Culture.